Et oui, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, nous retrouvons notre émission Questions d'actualité comme tous les jeudis soirs. Comme vous le savez, tous les deuxièmes jeudis de chaque mois, c'est une question d'actualité qui est soumise aux quatre médias. Donc les quatre médias avec Aki.fr, Joël Aubert, avec l'écho des collines, Hugo, avec Sud-Ouest, mais qui sont excusés parce qu'ils seront vraisemblablement pas là ce soir, et bien entendu, Odo Radio. Et aujourd'hui, la question d'actualité qui est soumise aux quatre médias, mais c'est la prévention, la lutte contre les discriminations dans la formation professionnelle et l'apprentissage en handicap, en Aquitaine, pardon. Et oui, concernant la question de l'handicap. Donc, ça sera une question d'actualité dédiée à l'handicap, à l'emploi et la formation. Donc, les droits des personnes handicapées sont régis notamment par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées. Selon cette loi, constitue un handicap au sens de la présente loi toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitive ou psychique, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Donc en abordant diverses thématiques comme l'accueil des personnes handicapées, le droit à la compensation, les ressources, la scolarité, l'emploi, l'accessibilité ou encore la citoyenneté, la loi de 2005 redéfinit les droits fondamentaux des personnes en situation de handicap. Mais nous nous intéresserons ici plus précisément aux problématiques de la formation et de l'emploi en Aquitaine. Plusieurs organismes œuvrent dans ces perspectives. Donc, pour ce faire, nous avons invité de nombreuses personnes. On a un beau plateau ici à Odo Radio. Donc, on va peut-être commencer par Marie-Josée Payot. Marie-Josée Payot, qui est directrice adjointe à la Directe. Bonsoir, Marie-Josée.
Bonsoir.
Alors, peut-être un petit mot de présentation pour la Directe, pour nos auditeurs, nos auditrices qui ne connaîtraient pas encore cette désignation.
Alors, la Directe, c'est un service de l'État, donc qui regroupe un certain nombre d'autres services. La concurrence, la consommation, des services de l'économie et surtout du travail et de l'emploi.
Très bien, bon, merci Marie-Josée. On passe à Béatrice Dezeg. Béatrice Dezeg, bonsoir.
Bonsoir.
Béatrice Dezeg, vous êtes conseillère régionale déléguée aux personnes handicapées.
Exact.
Très bien, nous avons aussi Béatrice Serrage, qui est coordinatrice du schéma régional pour la formation des personnes handicapées. Bonsoir Béatrice Serrage.
Bonsoir.
Donc ce schéma régional, on le dit, mais peut-être qu'il faut le redire, mais ça concerne plusieurs partenaires, Béatrice, c'est bien ça?
Absolument. C'est un partenariat interinstitutionnel entre les services de l'État, du Conseil régional et de la GFIP, qui depuis 1998 œuvrent ensemble pour l'accès à la formation, pour développer la formation et la qualification des personnes en situation de handicap sur l'ensemble du territoire aquitain.
Merci beaucoup, Béatrice Serrage. Mais justement, là, les trois partenaires sont présents ce soir. On l'a vu avec la région et Béatrice Dezeg, l'État avec Marie-Josée Payot et la GFIP Aquitaine avec Daniel Diaz. Daniel Diaz, qui est délégué régional de la GFIP Aquitaine. Bonsoir, Daniel Diaz.
Bonsoir à tous. Effectivement, la GFIP, AGFIP Aquitaine, donc la GFIP, c'est le Fonds pour l'emploi des personnes handicapées. C'est un organisme paritaire et pour faire simple, nous collectons les fonds des entreprises qui ne s'acquittent pas ou qui s'acquittent partiellement de l'obligation d'emploi en versant une contribution à la GFIP. Nous collectons ces fonds et nous les engageons dans l'optique de développer l'emploi des personnes handicapées.
Très bien, on vous remercie Daniel Diaz. On va passer aussi à trois associations qui représentent des personnes en situation d'handicap. Donc nous avons Béatrix Alessandrini qui est directrice du groupement des intellectuels aveugles et amblyopes, le GI2A. C'est bien ça, Béatrix?
Tout à fait. C'est tout à fait ça.
Donc leur groupement des intellectuels aveugles et amblyopes. Amblyopes, peut-être un petit mot d'explication aussi.
Amblyopes, ça veut simplement dire malvoyant, c'est-à-dire ça a été emprunté au langage zoologique. Les taupes sont amblyopes. Et ça veut dire que ce sont des personnes qui peuvent perdre la vue en cours de vie progressivement, etc. Et intellectuel, pourquoi? Parce que ça a été créé en 1949 à Paris par de jeunes étudiants qui recherchaient des personnes, ils étaient aveugles forcément, pour les aider dans le cursus de leurs études. Voilà. Et nous avons notre spécificité à Bordeaux, la délégation aquitaine, nous nous occupons des étudiants, des retranscriptions, etc., pour leur permettre d'accéder aux études supérieures.
Très bien. Donc on poursuit ce tour de table avec une autre association, donc avec son directeur Roger Rodriguez du Centre de formation visuelle langue des signes française en Aquitaine. Bonsoir Roger Rodriguez.
Bonsoir.
Donc la particularité de votre participation à cette émission, c'est qu'évidemment on a un interprète, Roger. Hein.
Donc oui, tout à fait. Et juste un petit mot. Donc, tout à l'heure, enfin ce matin, vous m'avez téléphoné pour me dire que vous aviez des difficultés puisque vous n'avez pas trouvé de financement pour l'interprète et donc vous souhaitiez annuler ma participation. Donc bon, j'ai désiré quand même venir en payant les interprètes de ma poche, mais donc du coup je pose la question aux services comme la GFIP ou le service de l'État. Comment se fait-il que, par exemple, dans votre institution, vous n'ayez pas trouvé de financement pour permettre la participation d'une personne sourde à ce type d'émission? C'est voilà, c'est tout à fait un exemple de discrimination.
Alors justement, donc on en a discuté d'ailleurs avec une personne de chez vous ce matin. Donc j'ai réussi quand même à avoir un financement pour la prestation de l'interprète. Hein. Donc mais ça restera évidemment à voir entre nous, hein, par la suite, quoi. En tout cas, effectivement, c'est une bonne question. Effectivement, c'est un frais supplémentaire. Je crois que le devis s'est levé à 295 euros. Donc, on voit le coût que peut avoir, par exemple, un interprète dans la traduction, peut-être demain dans la formation professionnelle, dans l'apprentissage, pour des personnes dans cette situation-là. C'est une véritable question, mais peut-être qu'avant de la poser aux autres personnes qui sont autour de la table, on va finir juste le tour de table, donc avec Olivier Monteil. Olivier Monteil, donc responsable de l'APF. Bonsoir, Olivier.
Oui, bonsoir. Je suis représentant du conseil départemental de l'APF, donc on est des élus et on travaille pour défendre les droits des personnes, pour une bonne insertion dans la société et que les citoyens soient des citoyens à part entière, quel que soit leur état.
Merci Olivier Monteil. Donc pour l'APF, l'Association des paralysés de France. Donc écoutez, la plupart d'entre vous autour de cette table, on vous avait rencontré à l'occasion d'une grande journée sur l'handicap le 7 février 2011 dans les salons, dans l'institution régionale, le conseil de la région d'Aquitaine. Donc peut-être un petit mot en retour sur cette journée, parce qu'à l'occasion de cette journée, on a eu quand même deux temps forts, à savoir la signature avec d'une part la GFIP, hein, l'Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, mais aussi le FIP, le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Alors peut-être, Béatrice Dezègue, un petit retour sur cette journée. On se rappelle aussi du temps fort de la matinée avec la présentation du schéma d'accessibilité concernant les lycées en Aquitaine. Donc peut-être un retour sur le contenu de cette journée, Béatrice Dezègue.
Alors un retour sur la journée, comme les précédentes journées qui ont lieu donc de préférence le premier lundi du mois de février de chaque année. C'était la troisième édition. À chaque fois, c'est finalement la volonté de nous retrouver, les institutionnels comme la région Aquitaine, comme l'État, mais nos partenaires, et ils y sont nombreux, pour faire un point sur les actions que nous avons menées ensemble pour faciliter l'accessibilité des personnes handicapées. Alors, nous retrouvons ce soir pour la formation. C'est un point très important, mais nous abordons aussi au Conseil régional tous les projets et tous les points qui sont nécessaires pour éviter les obstacles, pour permettre aux personnes en situation de handicap d'être le plus autonome possible. Et la réflexion de monsieur sur les interprètes me font penser aussi à la réflexion que monsieur Montel aurait pu poser sur le déplacement, hein, comment se rendre facilement ici. Ici, comment bénéficier d'un interprète, comment, en un mot, se retrouver et partager sur le point donc du handicap. Alors, au Conseil régional, nous avons travaillé sur la mise en accessibilité, vous en parliez, des lycées. Hein, nous allons clôturer, finaliser ce schéma d'accessibilité avec les associations, comme nous l'avons fait dans le cadre de la mise en route du schéma d'accessibilité des TER et des gares. C'est un schéma que nous avons construit avec les associations. Nous n'avons pas voulu, dans ce domaine-là, être les seuls à décider. Nous avons voulu échanger, partager, voir les besoins, les priorités. Et au final, eh bien, c'est un projet qui est en route et pour le lycée de la même façon. Nous avons voulu, au Conseil régional d'Aquitaine, imaginer la région Aquitaine comme étant un espace, un univers où l'Aquitain, quel qu'il soit, puissent se placer facilement, accéder facilement aux loisirs, à la formation, se rendre sur un lieu d'embauche pour passer un entretien pour un futur emploi. Nous avons donc tenu à travailler aussi précisément en direction des personnes en situation de handicap.
Très bien, Béatrice Dezec. Alors peut-être un petit mot de Béatrice Serrache sur justement votre travail de coordination avec ce partenariat, on l'a vu, tripartite, État, Région, AGFIP. Alors en quoi consiste-t-il? Et peut-être un petit mot sur la resignature de cette convention avec l'AGFIP justement.
Le partenariat institutionnel qui existe ici en Aquitaine est, on peut dire, assez exemplaire parce qu'il existe dans très peu de régions en France. Il y a une véritable volonté des trois institutions qui sont les plus porteuses, les plus compétentes en matière de formation professionnelle, d'œuvrer ensemble, c'est-à-dire de mettre leurs dispositifs respectifs en cohérence de manière à faciliter l'accès à la qualification des personnes handicapées. On peut dire que la loi de 2005 a été, dans ce partenariat qui préexistait à la loi de 2005, la loi de 2005 a néanmoins été un moment extrêmement déterminant, puisque ce partenariat institutionnel s'est vraiment intensifié et en tout cas a vraiment affirmé très fortement une volonté d'accompagner les acteurs de terrain dans le domaine de la formation professionnelle pour les amener à appliquer la loi. Puisque la loi, on peut rappeler peut-être que cette loi donne une place à part entière, une place de citoyen véritablement à toutes les personnes en situation de handicap. Et que de cette manière, elle invite l'ensemble des organismes de formation professionnelle à se soucier de l'accessibilité. Alors, on parle de l'accessibilité effectivement souvent au niveau des locaux, mais c'est une accessibilité vraiment beaucoup plus large puisqu'elle se soucie vraiment de l'ensemble de l'accessibilité pédagogique, organisationnelle, matérielle, etc., etc., de manière à pouvoir permettre à des personnes, quel que soit leur handicap, quel que soit leur degré de handicap, de pouvoir prétendre à se qualifier. C'est vrai qu'ici, en Aquitaine, on peut dire que les trois partenaires institutionnels ont vraiment développé un souci commun pour permettre aux professionnels des organismes de formation, mais aussi des conseillers à l'emploi qui accompagnent des personnes, de trouver des ressources pour leur permettre d'appliquer la loi, on va dire, hein, d'appliquer la loi face à laquelle ils pourraient être vraiment très isolés, parce qu'on sait très bien que dans les représentations communes, accueillir une personne handicapée, c'est forcément très compliqué. Bon, je dis bien représentation commune, parce que ça ne veut pas dire pour autant que toutes les personnes handicapées vont nécessiter véritablement un aménagement ou un accueil particulier. Hein. Certaines personnes vont nécessiter une attention plus particulière par rapport à leurs besoins, et en tout cas vont nécessiter que les professionnels de la formation qui les accueillent aient la capacité de vraiment identifier finement leurs besoins, et surtout de trouver des réponses pour aménager les processus de formation autant que de besoin.
Alors pour la GFIP, en quelques mots, Monsieur Diaz, qu'est-ce qui est mis en place justement depuis cette loi et depuis ces signatures de convention avec la région Aquitaine et l'État?
On part d'un principe assez simple. La formation, c'est quelque chose d'essentiel dans un parcours d'insertion professionnelle. Ça suffit pas toujours d'être formé, mais en tout cas, ça aide. Or, quand on regarde la situation des personnes handicapées et qu'on regarde leur niveau de qualification, eh bien, le constat qu'on peut faire, s'agissant des demandeurs d'emploi, par exemple, eh bien, on constate que les demandeurs d'emploi handicapés ont un niveau de qualification moindre que les demandeurs d'emploi tout public. Donc, et la différence est assez importante. Donc, je dis souvent que un des principaux freins à l'emploi des personnes handicapées, c'est sans doute le handicap, mais au-delà du handicap, c'est très souvent le niveau de qualification. Donc c'est naturel que la GFIP, en tant qu'acteur de l'emploi des personnes handicapées, eh bien, agisse et engage des moyens en faveur du développement de la qualification des personnes handicapées. Ceci étant, et c'est vraiment sur cette base-là que nous avons bâti cette politique régionale concertée. Et Béatrice Serrage a raison de dire que c'est une politique entre les trois partenaires qui est une politique volontariste, qui s'est construite au fur et à mesure, mais elle est réellement volontariste. Et cette politique, elle s'inscrit sur un fondement fort, qui est d'ailleurs celui de la, un de ceux de la loi de 2005, à savoir que une personne handicapée, eh bien, elle doit pouvoir bénéficier de, du droit commun. Qu'elle soit handicapée ou pas, elle doit prétendre à pouvoir accéder à une formation au même titre que n'importe quel demandeur d'emploi. Donc le choix que nous avons fait, nous, AGFIP, ici en Aquitaine, ça n'a pas été de développer des actions de formation dites spécifiques où on n'aurait que des personnes handicapées, mais bien de faire en sorte que l'offre de formation qui est proposée, notamment par le Conseil régional dans le cadre du programme régional de formation, soit complètement accessible, et accessible au sens large, tel que vous l'avez décrit, Béatrice, à l'instant, accessible aux personnes handicapées. Et toute notre action, elle s'inscrit dans cette direction.
D'accord. Alors c'est vrai, Monsieur Diaz, on entend souvent, d'un côté, on critique les entreprises parce qu'on dit il n'y a pas assez de personnes en situation de handicap qui trouvent un emploi. Et d'autre côté, si on écoute les entrepreneurs, il y a souvent qui nous disent, ces personnes-là, on ne peut pas les recruter parce qu'elles ne sont pas assez formées. Donc, alors, en quoi l'État, Marie-Josée Payot, peut aider, donc, d'une part, à faire appliquer cette loi avec ses décrets, mais aussi dans ce partenariat avec les institutions?
Alors l'État, en règle générale, on a coutume de dire qu'il est garant de la mise en œuvre des politiques en faveur des personnes en situation de handicap. Donc ça couvre tout le spectre, en fait. Pendant assez longtemps, on va dire que l'État intervenait et continue à intervenir en matière d'accès à l'emploi, notamment en spécifique, donc via des dispositifs que vous connaissez, qui peuvent être, donc ça va, les anciens CT, ESAT maintenant, et les EA, les entreprises adaptées, donc qui accueillent spécifiquement des personnes handicapées. Mais bien entendu, le souhait de l'État, c'est d'aller au-delà, c'est-à-dire de rejoindre, alors de faire alliance, on va dire, avec l'institution aujourd'hui qui porte la formation professionnelle, donc le Conseil régional, et à ce titre-là, de voir comment, en alliant nos forces et en se mettant à plusieurs, on peut favoriser l'accès des personnes handicapées au droit commun, comme l'a rappelé Daniel Diaz. Je crois qu'il faudra arriver un jour à ce que l'État soit complètement désengagé, pour le coup, de toute action spécifique, ce qui voudrait dire qu'effectivement, on aurait réussi et que toute personne handicapée, quel que soit son handicap, pourrait accéder à tous les dispositifs. Et c'est à ce titre-là donc, qu'on finance le schéma régional de la formation professionnelle. Qu'on participe également dans un dispositif qui s'appelle le COM apprentissage, donc le contrat d'objectifs et de moyens sur l'apprentissage, là, alors spécifiquement pour les jeunes, à parité avec le conseil régional également. Là, on part du début, c'est-à-dire on prend les jeunes le plus tôt possible pour qu'ils puissent accéder à l'apprentissage et bien entendu à l'emploi.
Alors, une déclaration du secrétaire d'État chargé de la fonction publique, Georges Tron, qui date du 15 décembre 2010, qui dit « L'embauche de 7 000 travailleurs handicapés d'ici à 2013 dans la fonction publique d'État est possible ». Un mot là-dessus, peut-être concernant la signature avec le FIP.
Alors, il est certain que la fonction publique est un peu à l'écart, c'est-à-dire que là où on a mis des obligations d'emploi à des employeurs privés, la fonction publique ne se les a pas appliquées. Donc, il a fallu attendre effectivement la loi de 2005 et cette obligation qui s'applique aujourd'hui aux administrations d'État, mais aussi aux administrations des collectivités territoriales et à l'hospitalière. Alors, aujourd'hui, on a un taux d'emploi de toute fonction publique confondue qui est autour de 4%, mais avec quand même il faudrait nuancer dans la mesure où il y a un certain nombre de personnes qui sont handicapées et qui sont fonctionnaires, mais qui ne voient pas l'intérêt finalement de demander une reconnaissance de ce handicap parce qu'elles sont dans la fonction publique avec un statut relativement protecteur, on va dire. Alors après, au niveau de l'embauche dans la fonction publique, d'État, j'entends, tout le monde connaît aujourd'hui les déficits budgétaires que connaît le pays et la politique de réduction des effectifs. Donc je dirais que là, on est en plein dans le droit commun. C'est pas qu'on n'embauche pas de personnes handicapées, c'est qu'on n'embauche pas tout du tout.
D'accord. Donc sinon, le seuil dans la fonction publique est à 6% aussi.
Alors le seuil est le même que dans D'accord. les... sauf qu'après, je ne rentre pas dans les détails des comptes qui sont évidemment très, très compliqués.
Peut-être Madame Dezègue, un complément sur cette question.
Un
complément sur beaucoup d'interventions précédentes. D'abord pour rappeler que la formation professionnelle est la compétence, la grande compétence du Conseil régional d'Aquitaine. Et si dès 1998, nous sommes donc attelés à cette mission d'appui qui est le schéma régional de la formation professionnelle en direction des personnes handicapées, c'est que nous avions cette volonté, cette ambition de contrarier les chiffres du chômage qui touchent d'abord et surtout les personnes en situation de handicap, les femmes et les jeunes aussi. La loi de 2005, elle a été votée. Nous aurions pu à un moment donné nous dire, bon, ben, la loi est votée, on n'a plus besoin de travailler au sein du schéma régional de la formation professionnelle des personnes handicapées parce qu'il y a obligation pour les organismes de formation d'accueillir, dans ce qu'on appelle le droit commun, une personne handicapée qui a un projet de vie professionnelle, qui veut suivre une formation. Bon, on n'a pas joué l'autruche. Nous savions que ce n'est pas en claquant des doigts que l'on peut accueillir comme ça une personne pour suivre une formation. Donc, bien évidemment, les leviers ont été analysés, les difficultés ont été analysées, les freins et les leviers donc ont été créés, cofinancés, mais surtout créés, réfléchis, créés, mis en place pour que les organismes de formation soient soulagés de se voir accompagnés pour pouvoir accueillir facilement ces personnes. À la région, nous avons par exemple, je crois de mémoire, financé 300 ou 400, peut-être plus, Béatrice, formateurs, des professeurs, pour qu'ils puissent une formation à l'accueil et à l'accompagnement des personnes en situation de handicap, surtout les handicaps, pour qu'ils soient plus à l'aise, qu'ils puissent donc changer le regard sur la personne handicapée et quelque part ne plus voir son handicap, mais voir son intelligence, sa motivation, sa part de créativité qui va l'insérer dans la formation. Et puis nous avons aussi imaginé tous ces dispositifs, on ne donnera pas les sigles, mais on dira simplement que c'est prendre en considération aussi le handicap, à une situation particulière, il faut une réponse particulière, donc des aménagements pédagogiques, passerelles, c'est-à-dire avant d'entrer immédiatement à la formation, se poser la question avec le jeune porteur de handicap, le professeur, l'équipe pédagogique, est-ce que son projet, c'est bien celui-là? Est-ce que ça va bien de cette formation qu'il a envie de faire, voilà. Et puis donc ce dispositif consolide la personne dans son choix ou va l'aider à changer éventuellement. Mais dans tous les cas, nous voulions vraiment qu'une personne qui s'inscrit dans un projet professionnel de vie en passant par le cursus formation en sorte avec un niveau qualifiant pour éviter de se retrouver au chômage. Et vous parliez des entreprises lors d'une réunion, d'une journée du handicap avec la GFIP. Nous avions invité les entreprises. Nous avions aussi invité des entreprises modèles, exemplaires, qui ont témoigné. Et nous avions en face des entreprises qui ont écouté, qui se sont rendues compte surtout qu'elles peuvent être accompagnées, elles peuvent être aidées. Et lorsque vous parliez de la signature avec le fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, nous l'avons aussi signé au Conseil régional parce que nous avons, nous, accueilli des apprentis et nous sommes dit qu'en consolidant un partenariat avec le FIP, nous pourrions donner l'exemple vers les autres collectivités, vers nos autres collègues, pour dire, bon, mais regardez, un apprenti, c'est possible, ça peut répondre et occuper des emplois comme les autres, parce que c'est d'abord de l'intelligence.
Bon, très bien, Madame Dozec. Mais on reviendra tout à l'heure avec Béatrice Serrage sur ces dispositifs spécifiques à la fois vers la formation professionnelle, vers l'apprentissage, qui ont permis, depuis leur mise en œuvre, effectivement, une augmentation notable des personnes qui peuvent accéder justement à ces formations. Mais avant d'en arriver là, on va faire un petit tour de table donc, avec les associations et voir effectivement par rapport à l'installation de ce schéma régional pour la formation des personnes, la formation professionnelle des personnes handicapées, mais voir votre ressentiment sur ces politiques mises en œuvre sur la région Aquitaine. On l'a dit, évidemment, politique avec un partenariat institutionnel, à la fois la région, l'État et la GFIP. Alors peut-être un mot, qui c'est qui veut se lancer? Madame Alessandrini, Monsieur Rodriguez, Monsieur Monteil. Monsieur Monteil? Honneur à Béatrix, alors.
Ah bon, allez-y. Merci beaucoup. Mais en fait, je ne peux pas dire grand-chose, vu que nous travaillons, bon, bien sûr, pour des étudiants. Hein. Mais ce que je dois dire, c'est que nous sommes une délégation régionale, et à Paris, ils ont créé un club emploi, où ils s'occupent énormément de personnes qui viennent pour des entretiens d'embauche, et ils les préparent, etc. Et nous, à Bordeaux, si nous en avons eu encore jusqu'à il y a 2 ans, en fait, la plupart des étudiants que nous voyons dans la région se destinent à l'enseignement. Donc, nous ne pouvons pas les préparer à un emploi quelconque, puisque c'est une voie directe pour l'enseignement, quoi. Donc là, je ne peux pas parler, moi, des formations professionnelles. La seule chose que je puisse dire, c'est que je me suis aperçue que la plupart du temps, les étudiants n'ont pas suffisamment de documents pour suivre des études dans un état confortable, au même titre que les congénères valides, je dirais. Il semblerait que ça bouge un petit peu maintenant, mais ça a été quand même assez dur à démarrer. D'une part, parce que quand il s'agissait de financer soi-même la transcription de documents, ce n'était pas toujours évident. D'autre part, bon, maintenant, avec les accords avec les maisons d'édition et l'accès aux fichiers sources, ça devrait s'ouvrir à peu près normalement. Plus, je dirais, les progrès de la technologie qui font qu'on peut quand même directement scanner un document et aller assez vite pour le livrer, non plus au format braille papier, mais directement par lien ou par email, par CD, etc. Et le travail est quand même beaucoup plus facilité, mais je reconnais que je trouve qu'il y a quand même très peu de personnes étudiantes déficientes visuelles graves. Quand je dis graves, ça veut dire aveugles, ça ne veut pas dire malvoyants. Et là aussi, je voudrais faire un petit distinguo. On a tendance toujours à associer la malvoyance et la non-voyance. Alors que le malvoyant, s'il est vraiment très malvoyant, est considéré comme aveugle, bien évidemment. Mais malvoyant, je dirais, qui peut se suffire à lui-même, n'a pas du tout les mêmes besoins. Et on le voit bien dans l'accessibilité, où l'on parle de différenciation de couleurs pour les malvoyants, alors qu'un aveugle complet a d'autres problématiques. Alors vous voyez que déjà, même dans le domaine de la déficience visuelle, il y a un panel assez large de déficiences. Et par ailleurs, il faut aussi distinguer l'aveugle de naissance, ce qui est quand même très rare maintenant, l'aveugle en cours de vie, dans la jeunesse, qui a fait ses études en braille, qui les a fait d'une façon normale et qui doit s'adapter après. Enfin, c'est un handicap qui est considéré comme très lourd pour la simple raison qu'il l'est, bien sûr. Et puis, il faut quand même se dire aussi que plus de 90% des informations arrivent directement au cerveau par la vue, ce qui fait un manque total et une force importante à canaliser pour pouvoir accéder à la même information que tout le monde. Et c'est pas toujours évident, ça passe par des technologies qu'il faut apprendre. On peut se servir d'un ordinateur, certes, mais il faut apprendre à s'en servir. Il faut apprendre le clavier, on apprend les raccourcis, enfin, c'est un handicap très lourd. Et je reconnais qu'il y a beaucoup d'étudiants que je vois, moi, puisqu'on travaille quand même pour toutes les universités en France, pas seulement pour la région Aquitaine. J'en vois pas mal abandonnés aussi par, un peu détresse. Ça, c'est un peu trop lourd parfois. Il faudrait pouvoir leur faciliter les choses davantage si on veut avoir plus de déficients visuels dans la société, je dirais, du travail, lorsque ce sont des personnes qui peuvent très 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 bien travailler de par leur concentration et de par leur pouvoir intellectuel, puisqu'on s'attache justement à rédiger des projets, etc., d'une façon parfaitement autonome. Donc, je pense qu'il faudrait faire beaucoup de choses pour le handicap visuel. Je prêche pour ma paroisse, bien évidemment, je m'en excuse, hein, c'est toujours pareil, mais je ne me permettrai pas de parler pour le handicap moteur, par exemple.
Bon, très bien, mais on vous remercie pour cette transition, Madame Alessandrini. Donc, on va passer la parole à Olivier Monteil. Donc, Olivier Monteil, un mot justement sur cet accès, peut-être, qui aujourd'hui est plus favorisé pour les personnes, par exemple, en fauteuil.
Oui, mais plus favorisé, je ne sais pas. C'est vrai que la loi de 2005 a enfin pris en compte d'autres handicaps que le fauteuil. C'est vrai qu'avant, souvent, quand on parlait de handicap avec la loi de 75, on visualisait le handicap moteur et c'est vrai que c'était dommageable pour les personnes concernées par un autre handicap. Aujourd'hui, on se rend compte que malgré tout, même si on était pris en compte depuis bien plus longtemps au niveau de la législation dans le besoin, on se rend compte que finalement les choses vont pas si bien que ça et qu'aujourd'hui encore, des centres de formation sont pas accessibles, la scolarité c'est compliqué, que les prises en charge sanitaires ont des habitudes qui ont tendance des fois à dire la personne on s'en occupe, on la soigne et puis tant pis pour le reste, hein, la scolarité, la formation, on verra après. Hein. Mais sauf que la personne est grandie, est vieillie et puis elle arrive à l'âge d'avoir un emploi et puis elle se retrouve à justement pas être en phase. Hein, pas avoir le bon diplôme qui correspond à ses capacités physiques, et du coup devoir passer par des processus d'adaptation. Hein, donc on lui rajoute du handicap à du handicap. Et aujourd'hui, un des moyens qui serait de rendre ça plus facile, c'est au-delà de tous ces dispositifs qui existent et dont les autres invités ont déjà parlé, hein, la GFIP entre autres, c'est vrai que ça serait de réellement faire en sorte que les personnes puissent avoir, quand ils ont besoin d'une auxiliaire de vie scolaire, une auxiliaire de vie scolaire, quand ils ont besoin d'avoir l'accessibilité avec du transport, avec des trottoirs, avec des établissements recevant du public accessible, que ce soit réellement le cas, et qu'on arrête systématiquement de toujours essayer de faire à l'économie. On sait bien que dans notre société, aujourd'hui, tout coûte cher et que, il n'y a pas forcément de l'argent, dès qu'on lève le pied, on ne trouve pas des billets, quoi. Mais faut réellement mettre en œuvre quelque chose qui fonctionne, ne plus mettre de freins systématiques, avancer pour que la personne soit réellement une personne à part entière. Si aujourd'hui, on avait la possibilité pour les personnes en situation de handicap de réellement avoir le même parcours que tous, on n'aurait pas aussi peu de gens diplômés et des entreprises qui veulent embaucher, qui ne trouvent pas des gens qui ont le profil, quel que soit le handicap, mais avec le handicap moteur, on a des exemples, on recherche des gens en situation de handicap, on n'en trouve pas. Ça arrive à certains niveaux de compétences, entre autres que certaines sociétés qui cherchent des ingénieurs et autres. Et puis après, des processus où on voit avec les entreprises adaptées et autres, où les personnes rentrent, et puis finalement, ils n'ont pas tellement la possibilité d'en ressortir parce qu'ils ne trouvent pas les ancrages pour s'insérer dans le milieu professionnel ordinaire. Et quand ils vieillissent, ils ne sont plus forcément en capacité de tenir leur poste avec autant d'heures. Et des fois, il manque de structure et de passerelles pour les accompagner sur leur fin de carrière. Arriver à 50 ans, c'est une grosse galère. Donc, on voit qu'à tous les niveaux, ça coince. Et un des moyens, pour nous, en tout cas au niveau du handicap moteur, ça serait réellement prendre en compte dès l'origine donc, l'accessibilité matérielle, d'une part, mais aussi l'accompagnement avec quand il y a besoin d'accompagnement scolaire, par exemple. Faire en sorte que la personne elle ait tout un processus qui lui permette d'aller vers un emploi.
Mais aujourd'hui, avec les éléments dont vous disposez, est-ce que vous notez quand même une progression? Est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes qui accèdent justement à l'apprentissage, à la formation professionnelle, donc à l'emploi?
Oui, il y a de plus en plus de personnes qui accèdent à la formation professionnelle, qui accèdent à l'emploi. Oui, il y en a. Malgré tout, le taux de chômage des personnes en situation de handicap est bien supérieur à la moyenne nationale. Hein, c'est deux, voire trois fois le taux de chômage pour les personnes dites valides qu'on retrouve, ce taux 2 à 3 supérieurs pour les personnes en situation de handicap. C'est aussi des personnes qui se retrouvent dans l'impossibilité de trouver un emploi et qui baissent les bras, qui n'en cherchent plus. Ça arrive. C'est des processus. Là, on a eu une réforme de l'allocation adulte handicapé pour ceux qui en bénéficient, parce que c'est pas, toutes les personnes n'en bénéficient pas, une réforme qui dit tous les trimestres, vous devrez déclarer si vous avez un petit emploi et en fonction de ça, on calculera votre droit. C'était censé être incitatif et permettre à la personne qui a un emploi à être dans l'emploi et dire ça vaut le coup pour moi parce que mes revenus vont évoluer. On se rendait compte que beaucoup de personnes en situation de handicap avaient des emplois, des CES, des CEC, des CAE, des TUC par le passé, enfin, tous ces contrats aidés qui ont traversé les époques. Certaines personnes handicapées les ont traversées d'ailleurs, ont eu tous ces contrats et puis n'ont toujours pas de pérennisation de poste alors qu'ils ont prouvé qu'ils tenaient leur poste. Aujourd'hui, on va arriver là à se rendre compte que des personnes vont travailler avec des emplois précaires, vont perdre l'allocation, finalement pas avoir, parce qu'ils auront un peu travaillé, pas avoir de revenus bien supérieurs. L'incitation n'aura pas été réelle. On commence déjà à le comptabiliser après deux trimestres de déclaration. Donc ça fait pas longtemps. On commence déjà à s'en rendre compte que la société, avec la loi Paul Blanc par exemple, va revenir sur la possibilité de mettre en accessibilité, que la discrimination à l'emploi, ça existe, quel que soit le handicap. Alors après, mes collègues pourront commenter s'ils veulent, mais on se rend compte qu'à niveau de qualification égale, il n'y a pas forcément rémunération égale, il n'y a pas forcément progression de carrière égale. Alors quand on sait que déjà on est souvent moins bien qualifié, ben voilà. Donc il y a une discrimination systémique. Il y a une discrimination parce que ben, aujourd'hui, si on n'a pas la bonne couleur de peau, si on n'a pas la bonne forme physique, si on n'a pas le bon poids, si on n'a pas... Bon, alors, voilà. Je ne voudrais pas trop m'étaler là-dessus, mais c'est vrai que...
Bon, on va passer la parole peut-être à la troisième association, avant de laisser répondre aussi les partenaires du schéma régional. Donc, on va passer la parole à Monsieur Rodriguez, Roger Rodriguez, qui est directeur du Centre de formation visuelle langue des signes française en Aquitaine. Alors, vous aussi, est-ce que vous ressentez cette discrimination, justement, ou est-ce que vous trouvez, au contraire, que grâce à ce partenariat État-Région, AGFIP, on va dire que la problématique de l'accès à la formation professionnelle, à l'apprentissage, à l'emploi pour les personnes en situation de handicap, en l'occurrence là, les personnes malentendantes, est-ce que votre situation s'améliore ou pas? Et dans ce cas-là, si vous avez peut-être des préconisations à faire, hein, M. Rodriguez.
Oui. Alors vous parliez de malentendants. Moi, je représente tout simplement, on parle entre nous de sourds, tout simplement. Mais bon, c'est un terme un peu politiquement correct. Donc, je ne vais pas parler du centre de formation à la langue des signes visuelle. Je vais parler simplement de la situation des sourds. Et donc, les sourds ont une situation qui est très différente des entendants, notamment par rapport à l'histoire des sourds et l'histoire de la langue des signes, qui a été pendant très longtemps opprimée. Et beaucoup de sourds, pendant très longtemps, étaient en échec scolaire grave du fait de ce manque de communication, tout simplement. Donc il y a eu évidemment des progrès, notamment par la reconnaissance de la langue des signes par la loi de 2005, mais un certain nombre d'habitudes continuent encore à perdurer sur la volonté de médicalisation des sourds et sans vraiment prendre en compte leur langue et leur possibilité d'expression. Donc c'est vrai que bon, la situation des jeunes sourds maintenant est assez différente de celle des adultes. L'important, c'est dès le plus jeune âge de pouvoir donner une langue aux enfants pour que ils puissent vraiment progresser, apprendre et vraiment progresser intellectuellement. En même temps, c'est vrai que il n'y a pas encore vraiment suffisamment de diffusion de la langue des signes dans la société. Et beaucoup d'entendants sont un peu en difficulté, en ignorance de ce qu'est la langue des signes et de ce qu'elle permet. Et on retrouve encore, malgré tout, chez un certain nombre de jeunes sourds, beaucoup d'échecs scolaires et du coup, les difficultés d'accès à l'emploi. Et c'est vrai que, bon, y a, notamment tout ce qui est formation scolaire, met du temps à évoluer. Très souvent, par exemple, ce qu'on remarque encore à l'actuel, c'est que les choix professionnels pour les jeunes sourds sont assez limités. Ils n'ont pas une palette complète de choix de métiers. On les limite à certains types de métiers qui sont théoriquement, enfin, d'après ce que l'on dit, plus facilement accessibles pour eux, mais ce qui n'est pas toujours le cas. Et du coup, le fait de se forcer à suivre une formation qu'on a choisie fait qu'on est moins motivé aussi par la suite pour chercher un travail, pour s'intégrer dans la société. Et le fait de cette situation, un certain nombre de sourds, par exemple, se contentent de l'AAH dont on parlait tout à l'heure, l'allocation adulte handicapé et des subventions, enfin des allocations qui existent pour mener une petite vie de confort, mais simple et sans ambition, et notamment sans ambition professionnelle. Ce que l'on constate au contraire, c'est que lorsque l'on sensibilise notamment les entreprises à la langue des signes et à la facilité qu'elles procurent pour la communication avec les personnes sourdes, là, ça permet une intégration beaucoup plus facile pour les personnes sourdes. En fait, il y a eu beaucoup d'évolutions par la loi de 2005, mais il y a encore des limitations, notamment par exemple dans tous les matériels qui pourraient nous aider, comme la visiophonie, comme la visio-interprétation, etc. Et souvent on nous dit « ah oui, mais là on ne peut pas tout faire parce que c'est trop cher » ou il y a sans arrêt encore des limites, quoi. Et bon, il faut avancer, il faut continuer à avancer, mais c'est difficile, quoi. C'est vrai que, à mon avis, bon, personnellement, je suis un peu contre le système des allocations dont on parle. Bon, beaucoup de personnes handicapées s'en contentent, mais c'est un pis-aller. C'est-à-dire que ça laisse les gens dans un statut d'assisté et ça les motive pas vraiment à apprendre, à progresser, à chercher un emploi, etc. Et ça démotive, souvent. En plus, un petit point. Bon, par exemple, pour ce qui est des exemples concrets de la vie quotidienne des personnes sourdes, quand un sourd, par exemple, se présente à Pôle emploi, dans quasiment toutes les agences, il n'y a strictement personne qui connaisse la langue des signes. Donc le fait d'y aller une fois, de ne pas être compris, d'y aller une deuxième fois, de ne pas être compris, bon, on fait qu'au bout d'un moment, on baisse les bras et on abandonne, quoi. Beaucoup, en plus de sourds de naissance, sont illettrés, donc n'ont pas accès aux informations écrites. Et bon, l'ensemble de cette situation fait que c'est difficile, quoi. Voilà. Bon, ce que je vois moi-même, c'est par exemple dans le centre où je travaille, donc un certain nombre de personnes sourdes ont été embauchées. Et donc, du coup, entre nous, évidemment, c'est très facile pour communiquer, puisque toutes connaissent la langue des signes. Mais quand on demande, par exemple, du matériel comme les nouveaux systèmes de visiophonie, on nous dit « Ah oui, mais attention, là, on ne peut pas en mettre partout parce que c'est trop cher. On peut financer des interprètes, mais avec un certain nombre de limitations en nombre d'heures, notamment pour les formations. » Je rejoins tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure par l'intervenant précédent sur les limitations à l'accessibilité par rapport notamment aux questions financières, quoi. Alors que, de fait, en mettant les moyens adaptés à nos besoins, les problèmes ne se poseraient pas du tout dans les mêmes termes. Quand on voit, par exemple, bon, en ce qui concerne les sourds, quasiment toutes les administrations, dans quasiment toutes les administrations, il n'y a aucun accueil en langue des signes. Non, quasiment toutes, y compris à la GFIC, y compris au conseil régional, y compris. Et c'est dommage, quoi. Et même à la MDPH, la maison départementale des personnes handicapées, un sourd qui rentre ne peut pas communiquer parce que personne ne connaît la langue des signes. Mmh. C'est dommage.
D'accord, merci. Bon, avant de poursuivre notre tour de table, Guy, je me retourne vers Guy Lévin. Guy, tu avais interviewé donc. Un centre de formation pour personnes en situation de handicap à l'occasion de cette journée « Je prends mon handicap » le 7 février à l'hôtel de région. Donc un petit mot déjà pour présenter ce son et sur l'intérêt effectivement de cette formation, notamment pour le jeune qui répare des avions en ce moment.
Oui, bonjour. Oui, effectivement, nous avions rencontré donc Jean-Marie Grandenet, voilà, qui a un institut de formation en maintenance aéronautique et qui a pris ce jeune handicapé déficient mental qui avait pour passion les avions et qui se retrouve dans une formation. Ça marche très bien d'ailleurs et il dit lui-même c'est la même chose que pour une personne valide, il est totalement intégré, mais bien sûr en adaptant cette formation. Voilà, et c'est ce qu'il explique, et ça se passe très très bien pour lui. Ça a été un long parcours pour ce jeune homme pour arriver jusque-là. Il était dans une association de Bordeaux, Antigone, et il est arrivé jusqu'à cet institut de formation à Belvès, à côté de Bergerac. Voilà ce que je peux dire sur ce son que nous allons diffuser.
Je suis Jean-Marie Grandenet, j'ai 50 ans et voilà, je vis du métier de la maintenance aéronautique depuis le début, la sortie de l'école et de la formation depuis bientôt 17 ans.
Expliquez-nous un petit peu ce projet.
Ce projet, il est venu en fait naturellement. C'est un de mes anciens élèves qui a créé sa propre entreprise de maintenance aéronautique à Bergerac, qui a eu le contact. Et lui, comme il travaille sur des avions qui volent, il n'a pas osé accueillir cette personne dans le cadre d'une insertion professionnelle, notamment le cadre Civis. Et il a préféré envoyer sa maman et ce jeune garçon vers moi, où moi je pouvais peut-être l'intégrer déjà, pour observer ce que ça allait donner. Mais en fait, à l'origine, la vérité, c'est que je ne sais pas qu'il y a un handicap. Je réponds à une démarche volontaire dans ce cadre Civis. Et c'est plus tard, après plusieurs entretiens avec la Valérie Simon, la responsable de la mission locale, que s'est posé la question d'insérer Alexandre dans un programme de formation professionnelle. Et comme c'est un jeune qui est très passionné d'aéronautique et que j'avais fait un état des lieux en fait, de sa capacité à pouvoir entrer dans ce métier, et j'avais donné mon compte rendu, donc assez, je dirais, objectif, puisque je n'étais pas du tout influencé d'aucune manière. En plus, j'ai aucune pression, puisque je dirige moi-même mon centre de formation. Donc, j'avais le choix d'accepter ou de refuser. Et en fait, on a construit ensemble un parcours On s'est calé d'abord sur un parcours que je proposais, un parcours de formation que je proposais, et ensuite on a évoqué le fait de mieux analyser son handicap dans le cadre du RECAP, donc avec les personnes notamment de la structure Antigone à Bordeaux qui avait contribué à sa formation scolaire, et le responsable accompagnateur Stéphane Rigal du SRFPH et Valérie Simon de la mission locale de Bergerac. Voilà comment on a mis en place, en fait, le projet. Et après 2-3 mois, on va dire, de construction de dossiers et tout, il est enfin arrivé pour 10 mois de formation chez moi.
Voilà, donc on remercie Guy pour la présentation de cette interview. Peut-être pour rebondir sur ce qui a été dit, on va poursuivre notre tour de table. Monsieur Dias, oui, pour la GFIP.
Moi, j'aurais souhaité revenir sur trois points qui ont été abordés et qui ont été évoqués par les personnes qui sont intervenues, notamment au niveau des associations. Alors, non pas pour contredire ce qui vient d'être dit, mais peut-être légèrement pour atténuer. On parle de ce qui va pas et c'est normal, mais permettez-moi juste en 30 secondes d'essayer aussi de parler de ce qui marche. Et on a aussi, s'agissant d'emploi des personnes handicapées, tout intérêt à communiquer aussi sur ce qui fonctionne. Le thème aujourd'hui, c'est la formation professionnelle. Et on est parti d'un principe où on considère qu'il y a un lien entre formation et embauche. Je ne veux pas vous abreuver de chiffres, simplement vous citer un chiffre qui traduit très concrètement le reflet de notre volonté concertée. J'ai dit tout à l'heure que nous avions la chance dans cette région de mener une politique volontariste entre les différents partenaires. Être volontariste, ça suffit pas, encore faut-il avoir des résultats. Donc ces chiffres sont les suivants. Quand on regarde sur l'année 2010, tout le public, handicapé ou pas, qui a bénéficié d'une action de formation, et qu'on regarde la part du public handicapé au sein de ces actions de formation, eh bien, on constatera que 14% des publics formés en Aquitaine sont des personnes handicapées. 14%. Elles sont 9% au niveau national. C'est-à-dire, on a 5 points de plus au niveau de l'Aquitaine, et l'écart se creuse encore, puisque si on compare avec 2009, nous avons progressé et le niveau national a légèrement diminué. Donc ça c'est une donne qui est réelle et on espère que on va retrouver cela en termes d'impact direct sur l'emploi. Vous disiez, monsieur, tout à l'heure, à juste titre, que le taux de chômage des personnes handicapées est sensiblement 2 fois supérieur au tout public. Et c'est vrai. Néanmoins, quand on regarde ce qui s'est passé, en tout cas en Aquitaine en 2010, et ne serait-ce que sur l'activité d'un réseau de placement spécialisé qui est le réseau Cap Emploi, hein, qui est aux côtés de Pôle Emploi, travaille en complémentarité, quand on s'intéresse simplement à l'activité du réseau Cap Emploi, on constate que plus de 3400 personnes ont été embauchés en 2010 sur l'ensemble du territoire aquitain et que c'est plus 31% par rapport à 2009. Hein. Donc c'est important aussi de le signaler. Maintenant, et j'en finirai là, aux côtés du réseau Cap Emploi, aux côtés donc organismes de placement spécialisés pour employer les personnes handicapées, aux côtés de Pôle Emploi, s'agissant de certains handicaps, alors qu'on qualifie de handicap spécifique. Alors, ils sont ici tous représentés autour de la table. Eh bien, la GFIP a développé des aides techniques, des aides humaines, parmi lesquelles des interprètes, des interfaces, puisque vous l'évoquiez, monsieur. Et normalement, hein, lorsque une personne handicapée va à Pôle emploi ou va à Cap emploi, Pôle emploi ou Cap emploi ont la possibilité de mobiliser cette aide sur des financements AGFIP et ça sur l'ensemble du territoire aquitain. Donc il y a les trois types de handicaps qui sont ici autour de la table et nous sommes en train de travailler actuellement sur la mise en place de ressources spécifiques pour accompagner les structures Pôle emploi et Cap emploi au titre d'un handicap dont on n'a pas parlé aujourd'hui, qui est le handicap psychique et le handicap intellectuel. Donc c'est quelque chose qui existe, qui est calibré en matière de besoins à l'échelle de l'Aquitaine et je vous assurais que c'est mis en place et que normalement vous devriez pouvoir y accéder.
Bon, très bien. L'handicap psychique bon, a été évoqué à l'occasion du reportage qui vient d'être diffusé. C'est vrai que ça s'adressait à une personne qui avait un handicap psychique. Alors peut-être avec Béatrice Serrage, j'aimerais revenir avec une petite explication sur mais ces dispositifs que vous avez mis en place dans l'accès des personnes handicapées aux dispositifs de formation droit commun. Alors aussi bien tant pour l'apprentissage que pour le programme régional de formation. Donc ben là, c'est intéressant parce que là aussi, on va essayer quand même de dégager quelques messages positifs. On s'aperçoit que grâce à ces dispositifs, de 2005 à 2009, il y a une progression très sensible de personnes qui accèdent soit à l'apprentissage, soit à la formation professionnelle, et donc à l'emploi.
Oui, c'est vrai que moi j'ai envie d'amener effectivement une note positive, même si ce n'est vraiment pas pour dire qu'on est dans la perfection de résultats, qu'on a abouti à l'idéal. Loin de là, le travail reste très, très, très long encore devant nous pour arriver à améliorer les choses. Toutefois, enfin, moi je. Pour occuper cette fonction depuis 2003, Je peux témoigner vraiment qu'il y a un changement qui s'est vraiment déclenché à partir de la loi de 2005. On parlait tout à l'heure du handicap auditif, par exemple. Moi, je peux dire qu'avant 2005, notre rôle dans le cadre du schéma régional, pour les institutions, c'est de savoir, bien évidemment, au plus près des organismes de formation d'Aquitaine, d'identifier les travailleurs handicapés pour essayer de mesurer l'évolution. Avant 2005, je peux vous affirmer que je n'ai pas rencontré une seule personne sourde en formation dans les organismes de formation de droit commun. À l'heure actuelle, et vraiment c'est quelque chose qui ne fait que croître, par exemple sur l'année qui vient de s'écouler, enfin sur les 6 derniers mois de l'année 2010, on a donc expérimenté un nouveau dispositif qui a été construit avec les organismes de formation professionnelle, avec les conseillers à l'emploi, pour essayer de vraiment comprendre les difficultés qui se posent pour eux, pour qualifier les différents types de publics. Ce dispositif vise à les aider, à leur amener des compétences externes, extérieures, pour les aider à identifier véritablement le besoin de la personne en termes de conditions de formation, de manière à mettre en place après les conditions de formation qui vont être les plus adaptées, que ce soit en termes organisationnels, pédagogiques, matériels, etc. Sur cette période de 6 mois, ce dispositif a été expérimenté sur l'ensemble du territoire aquitain. 35 personnes en ont bénéficié. Sur ces 35 personnes, il y avait 10 personnes sourdes et qui ne sont pas sur des formations simplement d'orientation ou de socialisation, comme on pourrait l'imaginer, qui étaient bien toutes dans des dispositifs de formation qualifiants, hein, dans des processus de formation qualifiants, dans des métiers qui étaient complètement atypiques avant, on va dire. C'est-à-dire que, par exemple, une personne sourde qui prétendait à se former dans les métiers de l'industrie, c'était quelque chose. Déjà, le conseiller à l'emploi qui l'accompagnait s'empressait de dire « ça n'est pas possible ». Désolé, mais vraiment, il faut penser à quelque chose, comme le disait monsieur tout à l'heure, à un métier, toujours les mêmes métiers. Là, c'est vrai que ce dispositif est en train d'ouvrir des possibles. Il demande énormément de compétences, énormément d'énergie, hein, de la part de l'ensemble des professionnels. Mais il y a véritablement, je crois, une envie des organismes de formation de se doter de compétences, d'évoluer, de faire reconnaître vraiment dans leur structure la place, et je le dis au niveau même de l'équipe pédagogique, parce que tout le monde n'est pas partie prenante forcément au même niveau. Parce que quelles que soient les aides qui sont amenées, hein, qui sont financées à l'organisme de formation, ça reste un véritable engagement de la part des formateurs qui accueillent ces personnes, un engagement à être attentif, à tout moment, à être attentif aux besoins de la personne, de manière à non pas surprotéger la personne, mais à avoir un regard, je dirais, le plus objectif possible et en tout cas le moins discriminant possible.
Très bien, merci. Oui, Joël Aubert pour acquis.fr.
Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que les chiffres que vous nous avez présentés révèlent en effet l'efficacité d'une politique décentralisée où l'État, les collectivités, les associations, côte à côte, analysent les situations et tentent d'y répondre. Mais ce qui me frappe aussi, c'est quand je découvre, pardon, je devrais sans doute le savoir, et qu'on a réussi à créer 3400 emplois en 2010, je me dis, il y a de l'information à faire. C'est-à-dire qu'il faut être capable de montrer, non, de dire, évidemment, qu'on a créé ces emplois, mais il faut montrer les gens en situation effective d'emploi au sein des entreprises, voire de la fonction publique, et les faire parler, parce que je crois que c'est la pédagogie de l'exemple, là aussi, qui sera susceptible de faire décoller les choses, quoi. Et donc je prends conscience, à travers ce que j'entends aussi, du travail qui reste à faire pour nous. Voilà.
Alors bon, il nous reste environ 5 minutes. On va essayer de faire un petit tour de conclusion. Oui, Hugo, pour l'écho des collines.
Oui, moi je m'interroge sur les motivations qui poussent les entreprises à embaucher. Est-ce que les motivations, que ce soit en termes financiers ou en termes d'image, sont vraiment les bonnes? Et est-ce que le problème n'est pas plus en aval?
Quelqu'un va se lancer? Oui. L'impaillot.
Oui, c'est vrai que ce public bénéficie de ce qu'on appelle une obligation d'emploi. Donc c'est la seule catégorie de personnes dans notre société qui bénéficie de cette obligation d'emploi. Donc c'est vrai qu'on pourrait dire qu'un certain nombre d'entreprises embauchent pour se dégager du paiement de la taxe à la GFIP. Bon, néanmoins, je veux dire, il n'y a pas, c'est pas le seul exemple. Je pense quand même qu'aujourd'hui, dans les entreprises, il y a une prise de conscience qui se fait parce que, comme vient de dire monsieur, parce qu'on en parle, parce que le handicap n'est plus caché comme il a pu l'être à une époque, parce que les enfants également, le handicap se parle. Donc on touche aussi des employeurs par le côté citoyen, en quelque sorte. Alors, c'est pas complètement gagné, on a beaucoup trop, on a encore 900 établissements en Aquitaine qui n'emploient aucune personne handicapée, donc c'est quand même, ça c'est énorme, on va dire. La collecte est donc permet, avec la GFIP, de mettre en œuvre des compensations. Mais la représentation bouge. Je voudrais aussi dire quelque chose sur ça, c'est que c'est pas quelquefois le chef d'entreprise qui a une représentation négative de l'embauche d'un handicapé, mais quelquefois il faut qu'il joue aussi avec son équipe de salariés, son encadrement intermédiaire, et quelquefois le frein vient du collectif de travail, en fait, parce que ben, le handicap fait toujours un petit peu peur dès lors qu'on est dans un groupe fermé, et une entreprise est un groupe fermé.
Alors c'est peut-être effectivement un travail d'éducation. Oui, Béatrice Dezec.
Oui, la question de l'écho des collines était très pertinente. Les freins sont surtout posés. Je reprends une formule qui était dit, c'est une question d'argent. Non, souvent, c'est pas une question d'argent, c'est une question de réflexe. Et aujourd'hui, le réflexe, c'est j'ai peur de celui qui est différent. C'est de la discrimination. Mais quelquefois, elle est sourde, elle est pas avouée, elle est latente, elle fait référence peut-être à des souffrances que porte chaque individu. Donc, c'est pas le patron qui veut pas embaucher. Souvent, c'est le DRH qui a ses propres peurs, c'est son équipe, etc. Mais quand un patron embauche, alors excusez-moi l'expression du patron, hein, mais quand quelqu'un accueille une personne en situation de handicap dans une équipe, il témoigne très favorablement, très vite. Il dit, elle a su apporter une dimension humaine dans le travail de l'équipe. Elle a su apporter des notions comme la convivialité, le respect, etc. Et donc, tous après disent, mais j'en ai pris un, j'en veux d'autres, quoi. C'est-à-dire, il s'instaure un climat de confiance et un travail agréablement fait, voilà. Donc, je parle plus de questions de réflexe. Monsieur Montel disait, la rue, les trottoirs, etc. Aujourd'hui, ce que nous avons encore à combattre, c'est cette absence de réflexe. Il y a trop le schéma « je suis valide, je suis beau, je suis jeune », etc. Les yeux bleus et tout, hein, à la Georges Clouzet, on va dire. Mais on en rigole souvent, mais bon, non. On sait que la société demain, et c'est pour ça qu'on se bat, et qu'on sait qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, c'est que la société demain, c'est que le bon réflexe, c'est que naturellement, il n'y aura pas d'obstacle dans la rue, d'obstacle pour entrer dans un établissement, à commencer par un lycée, et que pour se déplacer dans un lycée, il n'y aura pas d'obstacle. Et qu'en fait, quand tout le bâti sera accessible physiquement. Mais il n'y a pas que l'accessibilité physique. Il y a l'accessibilité intellectuelle. Et l'esprit que nous devons porter et ses réflexes, c'est la construction de la mise en accessibilité physique et intellectuelle. On peut parler donc de beaucoup de choses dans ce domaine-là, mais en commencer par l'intervention du monsieur sur l'illettrisme des jeunes sourds, c'est que aujourd'hui, les équipements dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées ne sont pas encore au rendez-vous. On est trop dans l'image d'Épinal du jeune en fauteuil roulant qui a besoin d'une pente pour entrer dans l'école, alors que c'est pas ça. C'est quel que soit mon handicap, je peux me déplacer dans n'importe classe, à le réfectoire, à la salle de gym, etc. Et je peux, avec les moyens des nouvelles technologies, de l'informatique, accéder au savoir parce que la technologie aujourd'hui le permet. Il y a d'ailleurs des entreprises qui l'ont compris. Je travaille dans une entreprise qui accueille des personnes sourdes et qui nous communiquons entre elles grâce à des systèmes d'informatique.
Alors, un petit mot de conclusion, Béatrice Serrage.
Oui, moi, j'avais envie de conclure en disant que ce que la loi de 2005 a amené, c'est vraiment une véritable révolution culturelle. Je crois que la France a amorcé ce mouvement. Je crois vraiment que dans le domaine de la formation professionnelle en Aquitaine, on est vraiment là, dans une évolution. Longtemps, on a pensé qu'il fallait être des spécialistes pour s'occuper de personnes handicapées. Au jour d'aujourd'hui, effectivement, c'est tout un chacun dans la société qui doit faire une place aux personnes, être attentive aux personnes, quel que soit leur domaine de vie, hein, et de leur volonté à se former, puisque c'est dans notre domaine. Mais vraiment, moi, j'ai envie d'être optimiste, parce que quand je vois le chemin parcouru en l'espace de 5 ans, je pense sincèrement que les choses sont en route et qu'il y a énormément de professionnels qui ont envie de faire la place à tous, à la condition d'être accompagné. Et je crois que ça, véritablement, effectivement, le handicap peut faire peur, mais à partir du moment où on n'est pas seul à se confronter à la crainte de ne pas savoir faire, eh bien, ma foi, je pense vraiment que les choses avancent.
On vous remercie, Béatrice. Je vous renvoie d'ailleurs aux livres et aux travaux de Charles Gardeau qu'on avait pu entendre à l'occasion de cette journée le lundi 7 février. Je prends ton handicap, justement, qui place l'handicap non pas en dehors de la norme, mais à l'intérieur de la norme, et en disant que finalement, on est tous demain en situation d'être handicapé, et qu'en fait, l'handicap, il faut le prendre comme une fragilité humaine. Et effectivement, si on éduque demain nos enfants avec peut-être ce concept-là, ce sera plus facile de prévoir tout ce qui va autour, quoi. Donc, en tout cas, je tenais à vous remercier, évidemment. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui sont frustrées autour de ce tas parce qu'on a encore eu beaucoup, beaucoup de choses à dire sur cette question-là. En tout cas, c'était une première émission sur la question de discrimination et l'handicap concernant l'accès aux formations professionnelles, à l'apprentissage, l'accès à l'emploi. On en refera d'autres. Et donc, on vous réinvitera à ce moment-là. En tout cas, je voulais tous vous remercier au nom d'Odo Radio. Donc, on va commencer par Béatrix Alexandrini, directrice du groupement des intellectuels aveugles et amblyopes. Merci Béatrix. Roger Rodriguez, directeur du centre de formation visuelle langue des signes française en Aquitaine. Olivier Monteil pour le conseil départemental de l'APF. Évidemment, sans oublier Daniel Dias, délégué régional de la GFIP Aquitaine. Béatrice Serrage, coordonnatrice du schéma régional pour la formation professionnelle des personnes en situation de handicap. Bien sûr, Béatrice Dezègue, conseillère régionale déléguée aux personnes handicapées. Et enfin, Marie-Josée Payot, directrice adjointe à la directe. Voilà, merci à tous et à très bientôt. Merci.